Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'Accès libre. Vous le savez peut-être, mais l'émission va porter entre autres sur le travail et détour de dernière minute à cause de l'annonce qui vient tout juste d'être faite conjointement par le cabinet du maire et la STM. On va parler aussi de cet investissement massif dans la mise en accessibilité du métro de Montréal. Alors c'est tout chaud, ça fait une demi-heure qu'on le sait et évidemment on aura Marie Turcotte, représentante des usagers, pour nous en parler. Le travail demeure important à l'émission. On va en parler, bien sûr. On va recevoir des personnes, des employeurs, des intervenants qui relèvent tous les jours les défis de l'emploi et tout ça dans le cadre de la campagne nationale de l'INCA pour l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision. On conclut aussi notre cycle de nouvelles chroniques avec la rencontre de la recherche sur le handicap. Avec nous, Marie-Hélène Raymond, doctorante en réadaptation, qui a tenté de regarder dans la tête des personnes aînées en situation de handicap et les ergothérapeutes pour savoir comment elle prioriserait ça, les services à domicile. Et en ouverture de cette émission, on va chercher à comprendre ce que va changer dans nos vies un traité, le traité de Marrakech, sur la disponibilité des livres et des textes en médias substituts ou en livre audio. Et on l'apprendra, on comprendra tout ça avec Marjorie Théodore, directrice générale de Vues et Voix, dans un instant sur les ondes de Canal M. Le traité de Marrakech a été adopté le 27 juin 2016 à Marrakech et fait partie des traités internationaux sur le droit d'auteur. Et à vous qui êtes habitués au service de Vues et Voix qui rend disponible des milliers de livres en version audio, vous serez certainement intéressés à connaître un peu mieux, en apprendre un peu plus sur ce traité qui a été ratifié par notre gouvernement. Donc avec nous, pour mieux faire le tour des impacts de ce traité, Marjorie Théodore, notre présidente directrice générale à Vues et Voix. Bonjour Marjorie.
Bonjour Benoît.
Merci d'avoir fait les pas de quelques portes jusqu'au studio.
C'est ça.
Ben, d'abord, vous avez participé aux travaux préparatoires en vue du dépôt de ce traité. Vous pourriez peut-être nous rappeler un peu ces événements.
Oui, bien sûr, ça remonte avant 2013. Donc, dans le cadre de l'Union francophone des aveugles, dont Vues et Voix est membre et dont je suis la secrétaire générale, on a travaillé sur un mémoire en amont pour justement donner les directives pour le traité, comment on le voyait, etc., et comment ce traité-là devrait être mis en activité. Donc, nous avons préparé le mémoire et nous l'avons déposé à l'OMPI, c'est l'Organisation de la propriété intellectuelle à Genève, aux Nations Unies à Genève. Donc, ce mémoire a été déposé comme d'autres aussi organisations l'ont déposé, parce qu'il y avait une réflexion qui était faite avant le dépôt.
Et donc, sans rentrer dans les détails, est-ce que ce traité-là qui a fini par être adopté, qui est en vigueur maintenant depuis le 29 septembre, est-ce que ça répond à vos attentes?
Oui, ça répond à nos attentes parce que c'était de savoir comment que le livre peut être plus accessible, mais surtout comment il peut traverser les frontières, ce qui ne pouvait pas se faire parce que chaque pays a une loi des droits d'auteur.
Ouais.
Donc, le livre était toujours bloqué par une loi quelconque.
Et donc, vous faites valoir que les droits des personnes aveugles à avoir accès au texte, au livre, est peut-être plus important que les droits d'auteur.
Bien, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais.
Et donc, pour qu'on comprenne mieux ce traité, pour qu'on le précise, donc, on libère certains droits d'auteur pour être certain qu'on puisse mettre en version audio des livres et des textes. Et aussi, comme vous le disiez, on permet aux livres audio de traverser un peu mieux les frontières. C'est ça que propose le traité.
Oui, tout à fait. Mais le traité est là aussi pour encadrer. Hein? Donc, c'est-à-dire que il y a toujours les droits d'auteur qui sont aussi importants, mais il y a aussi ce droit à l'accès du livre qui est encore plus important. Donc, le traité encadre de façon telle que d'abord, les organisations faisant partie des pays qui ont été signataires peuvent, entre entités légalisées, transiger. Par contre, ce qui diminue un peu l'effet, c'est que tant que le pays n'a pas ratifié, donc on ne peut pas faire affaire avec une organisation qui se trouve dans ce pays-là.
Ah ouais.
Alors, c'est pour ça que c'est important. Là, on sait que le Canada a été le 20e pays à le ratifier en juin 2016. Mais après ça, il faut que d'autres pays aussi le signent pour que ça ait toute sa vigueur au niveau international.
Et donc même, on attend toujours la ratification de l'Union européenne, par exemple.
Oui, tout à fait. Donc alors, ce qui limite beaucoup les transactions qu'on pourrait faire avec une entité qui serait au sein de l'Union européenne.
Okay.
Alors, c'est important que eux aussi fassent le même pas que le Canada.
Donc, on va travailler à ce que ça soit fait.
Oui.
Maintenant, évidemment, on est sur la sphère internationale, mais revenons à nos usagers et leurs besoins. Est-ce que ça voudrait dire que des livres audio en français, ça pourrait provenir d'ailleurs que de France, ça pourrait venir du Maghreb, par exemple, pourraient transiter plus facilement jusqu'ici puis qu'on pourrait les obtenir?
Oui, bien sûr, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que pour les usagers, là, actuellement, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont les entités légalisées. Ça veut dire Vues et Voix avec une autre entité pourrait mettre la collection de Vues et Voix accessible dans le pays en question et vice-versa. Par contre, ce qui est intéressant à dire, c'est que après, avec ce traité-là, il y a un travail qui se fait au niveau d'un consortium qui pourrait encadrer la distribution de ces livres-là. Ce consortium-là est bien connu sous le nom de TIGAR, T-I-G-A-R, T-I-G-A-R. Donc, c'est une base de données qui, internationale, donc qui regrouperait tous les livres en format accessible. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'il y aurait un point de chute, mais tout ça aussi est fait de façon non monétaire, hein, parce que le
donc,
traité...
Donc, c'est complètement gratuit.
Complètement gratuit. Le traité veut que ça reste gratuit parce que l'accessibilité est un droit universel, hein, donc que ça reste gratuit. Alors, ils sont en train de travailler sur cette base de données qui, elle-même, viendrait faciliter aussi l'utilisation par l'usager. Donc, il pourrait aller vers dans cette base de données puis avoir le nombre de titres qu'il pourrait avoir en lecture.
Bien, et donc, juste le répéter, donc ça veut dire que l'usager n'aura pas à payer
non,
pour avoir accès à ces livres.
Ouais.
Comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment avec les livres rendus disponibles par Vues et Voix.
Exactement. Et nous aussi, si on met notre collection accessible dans un autre pays ou dans TIGAR, c'est complètement gratuit aussi.
Notre segment tire bientôt à sa fin, mais j'aimerais beaucoup vous poser la question, comment vous croyez que les industries locales de l'édition, même les auteurs, vont réagir?
Bien, moi, je pense, en tout cas, ici, ça a bien réagi,
oui.
L'ANEL et tout. Ils ont bien réagi parce que il y a encore cet encadrement. Le point de chute, c'est toujours une personne avec une déficience, avec un appareil adapté de lecture. Donc, oui, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réticence au début, mais mieux ils connaissent, plus ils sont ouverts à être avec nous puis faciliter cette accessibilité.
Parce que c'est ça, les groupes qui sont ciblés, c'est évidemment les personnes en perte de vision.
Oui.
Mais c'est aussi les personnes qui sont empêchées de lecture, donc qui présenteraient des difficultés graves
toutes
à la lecture.
Oui, exactement. Okay. Physique, tout ceux qui ne peuvent pas avoir accès à l'imprimé aussi rapidement et facilement.
OK. Bien, on surveille la banque de livres audio de Vues et Voix, qui va sûrement s'agrandir dans les prochaines années.
Bien, j'espère bien.
Donc,
oui.
On peut revenir vers Canalem pour avoir plus d'informations,
oui.
Ou plutôt Vues et Voix. Et si on veut plus d'informations sur le traité de Marrakech, on peut se rendre sur le site de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour suivre l'évolution des pays qui entreront dans la danse.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Marjorie Théodore.
Merci, Benoît. Avions.
C'est dans une langue inventée, le titre de la pièce est « Ferro, fluide, fleur ». Hein, ça manque pas d'originalité. Et c'est de la part de Claude Pelgag qui a été la révélation de l'allée en 2014. Alors, j'espère que ça vous a fait danser. Vous allez comprendre qu'à l'émission, on ne modère pas nos transports. Et depuis pratiquement 45 minutes, nous avons appris l'investissement majeur de la part de la STM dans la mise en accessibilité du métro de Montréal. On a avec nous Marie Turcotte, représentante des usagers du transport adapté au conseil d'administration de la STM. Bonjour, Madame Turcotte.
Bonjour, Benoît.
Alors, comment on se sent avec une nouvelle aussi étonnante, importante?
Ben, on va de l'avant. Hein? C'est une très belle nouvelle. C'est une belle annonce parce que vraiment, ça va permettre d'accélérer la mise en accessibilité du métro de Montréal. Et on sait que le métro de Montréal est un moyen efficace pour se déplacer rapidement à Montréal. Et en plus, le métro, la STM, son réseau de transport est intégré. C'est-à-dire que les autobus et le métro ne font qu'un. Ouais. Donc, à partir du moment où il va y avoir un nombre important de stations de métro accessibles aux personnes en situation de handicap, à ce moment-là, ça va donner une grande possibilité aux personnes de se déplacer en réseau régulier comme tout citoyen.
Voilà, parce que pour l'instant, souvent, les personnes sont obligées d'utiliser le transport adapté. D'ailleurs, il y a souvent des gouvernements qui nous ont dit ça. Hein? Vous devez choisir entre le transport adapté et le transport régulier. Vous, Marie Turcotte, qu'est-ce que vous en pensez avec cet investissement-là en transport régulier? Est-ce que le transport adapté doit demeurer?
Le transport adapté demeure.
Oui.
C'est que ce que la STM dit, c'est que les usagers vont avoir un choix. Mm-hmm. Ils vont pouvoir faire des choix. Des fois, ils vont choisir de se déplacer en transport adapté. Puis des fois, ils vont choisir de prendre le métro, l'autobus. Ça sera aux gens de définir le moyen qu'ils veulent utiliser pour se déplacer.
Ben oui.
Pour ne pas oublier aussi qu'il y a des usagers qui ont des limitations motrices ou quelconques, mais ils ne sont pas admis au transport adapté.
Ah oui.
Ça, il ne faut pas l'oublier. Et la mise en accessibilité du réseau de régulier, ça rend, justement, ça facilite beaucoup l'utilisation du transport en commun pour les gens qui sont à mobilité réduite, mais qui n'ont pas accès au transport adapté.
Donc,
non admissibles au transport adapté.
Donc, revenons à cette nouvelle importante. On comprend bien là, que pour être égaux en droit, il faut pouvoir faire les mêmes choix. Et d'une mise en accessibilité du transport régulier, ça permet aux usagers en situation de handicap de faire les mêmes choix. C'est ce que vous dites en gros. Revenons peut-être à cette presque... C'est une longue histoire quand même. Avant d'arriver à ce financement-là, ça a dû être compliqué. Comment ça se fait qu'il y a maintenant autant d'argent sur la table pour la mise en accessibilité du métro?
Bien, depuis 2012, la STM, la Ville de Montréal, a reconnu que la mise en accessibilité du métro n'allait pas assez vite.
OK.
Mais pour pouvoir l'accélérer, ça prenait des fonds additionnels. Et depuis 2012, la Ville et la STM réclament, notamment auprès du gouvernement du Québec, réclamaient des argents pour accélérer la mise en accessibilité du métro. Or, ce matin, cette mise en accessibilité-là va pouvoir être accélérée grâce au gouvernement provincial, mais également au gouvernement fédéral qui vont contribuer au niveau financier qui va permettre l'accélération de mise en accessibilité par 14 stations.
Okay.
En fait, c'est 14 stations qui vont être rendues accessibles à part de celles qui étaient déjà planifiées.
OK. Donc, ça veut dire là, qu'on ne fait pas des choix. Là. Ce qui était déjà planifié demeure et on ajoute 14 stations de plus d'ici 2022.
En tout, d'ici 2022, c'est 21 stations. Il y a déjà 10 stations d'accessibles actuellement. D'ici 2022, il va y en avoir 21 de plus, qui va porter le nombre total à 31.
OK. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent, on pourrait traduire ça là, en station de métro. Bon, récemment, il y a eu Jean Talon, on attend Snowden, mais il y aurait Rosemont, Place d'Armes, Honoré-Beaugrand, du Collège, Bonaventure, Viau-Vendôme. Là, on est rendu déjà en 2019. Et même Berry-UQAM en 2019. Donc, tous les trois lignes de Berry-UQAM seraient rendues accessibles.
Ligne verte.
Sur la ligne verte, OK.
Oui.
Donc, il y aurait la ligne orange qui est déjà accessible et en plus, il y aurait la ligne verte qui le devient progressivement avec Honoré-Beaugrand qui s'ajoute en 2017.
C'est ça.
OK. Maintenant, j'ajouterais quelque chose parce que vous savez, on a beaucoup entendu parler dans les médias de ce thème-là. Les gens réclament du transport accessible, voire universellement accessible. Il y a beaucoup de groupes, je pense, à La Porte qui a fait une campagne de sensibilisation ou même des groupes qui ont montré des dents, comme le Rapplique, en déposant un recours collectif, notamment contre la STM, mais aussi la Ville de Montréal et le MTQ. Comment vous pensez qui vont réagir face à cette nouvelle-là?
Je ne sais pas, je vous inviterai à leur poser la question.
On va le faire, promis.
C'est ça. Mais pour ce qui est de ma part, c'est aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, c'est un pas, là. Mm-hmm. Parce que vous vous souvenez, on faisait en moyenne une station, on en faisait cinq à peu près, quatre en 5-6 ans. Là, maintenant, on va en faire 21 en tout et partout en 5 ans. C'est quand même pas rien. C'est une...
Mais comment vous réussissez à faire ça techniquement? En 5 ans, 21 stations, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de stations qui vont être transformées en même temps? Comment vous allez réussir ça?
OK. Le choix des 14 stations qui ont été... En fait, les 14 stations là, qui sont additionnelles, qui ont été ciblées, c'est des stations qui sont... à rendre accessible.
Mm-hmm.
Donc, la longueur des travaux va être moins longue.
OK.
Ça va prendre moins de temps.
Moins que Jean Talon, mettons?
Ben, oui, parce que Jean Talon, c'était... Je ne pourrais pas vous dire qu'elle était complexe, mais ce n'est pas des stations qui sont complexes.
Mm-hmm.
Je sais, comme le Mont-Royal, c'est pas que c'est une station qui va être rendue accessible, c'est une station qui est de nature complexe.
OK. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait aimé donner toute l'émission au transport. Mais comme la nouvelle surgit aujourd'hui, on a fait le plus de place possible qu'on pouvait. Merci beaucoup, Marie Turcotte. Et pour avoir plus d'informations sur les développements, on surveille quoi? STM.info? Où on regarde?
Bien, pour avoir plus de développement, vous allez voir le communiqué pour les gens qui ne l'ont pas encore eu sur le site de la STM.
STM.info.
C'est ça.
Merci beaucoup, Marie Turcotte, représentante des usagers au transport adapté au conseil d'administration de la STM. Merci beaucoup, Marie Turcotte.
Bienvenue. Bye-bye.
Au revoir. Avec nous, Fanny Allary, directrice générale de Finhandicap, une figure de proue au Québec pour promouvoir le R-E-E-I. Je commence avant de vous laisser expliquer vous-même ce que c'est. Vous avez peut-être entendu ces lettres-là, le R-E-E-I. Enfin, si vous ne l'avez pas entendu, c'est peut-être normal puisqu'on dit souvent qu'au Québec, on utilise peu ce moyen financier à l'attention des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est pour ça qu'on invite Mme Allary pour en discuter. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Vous aussi, d'ailleurs, vous avez accepté à la toute dernière minute. On a refait un peu l'horaire. Merci d'être avec nous parce que c'est toujours important, le REI.
Oui, c'est sûr.
Bon, alors, je disais plutôt que les gens connaissaient peu ça. Comment vous expliquez qu'au Québec, par rapport aux autres provinces du Canada, on utilise peu le REI, qui est un régime d'épargne, là?
Il n'y a pas nécessairement une explication unique, là. C'est peut-être un ensemble de facteurs. Ça n'a pas été beaucoup publicisé, peut-être ici. Peut-être aussi parce que c'est un régime, faut le dire, des fois fédéral, des fois okay. On est peut-être plus...
réticent, dites-le.
J'aime pas le mot réticent, disons frileux, ou tu sais, il y a une espèce de confiance là, qui est peut-être pas là envers les différents paliers gouvernementaux.
Ben, à certaines époques, oui.
Oui, ça, exactement. Puis là, ça date de 2008. Ça a tardé aussi au départ. Il y a eu une question de traduction là, de l'anglais au français et tout. Mm-hmm. Aussi au niveau des publicités, au niveau comme nous, quand on a débuté avec c'est Guillaume Parent, le fondateur du cabinet, quand il a débuté en 2010, ça fait déjà 2 ans que ça existait. Mais déjà, on voyait que dans le milieu francophone, c'était peu utilisé parce que peut-être qu'il y avait une barrière de la langue aussi. L'information avait été moins circulée ou moins traduite en français. Il y a peut-être une de ces explications-là. Mais je pense que ça n'a juste pas été véhiculé. Le message n'a pas été véhiculé. Okay. Dans l'Ouest canadien, par exemple, il y a eu des organismes comme Plan qui ont vraiment pris en main le dossier. Puis c'est eux qui, à l'origine, l'avaient poussé pour le développer. Donc, eux, ils l'ont publicé beaucoup. Donc, c'est des organismes pas gouvernemental, vraiment des OBNL qui l'ont pris puis qui l'ont publicisé, chose qui n'a pas été faite ici.
OK. Donc, on a peut-être peur des droits économiques aussi des personnes en situation d'handicap,
oui.
Parce qu'il n'y a pas juste les droits sociaux, là.
Exactement, exactement. Puis de façon générale, les Québécois sont des gens qui sont moins axés sur l'épargne. Souvent, on entend ça même au niveau des REER, au niveau du CELI, fait que c'est peut-être juste culturel aussi, là.
Okay.
Mais il faut en parler. Moi, je pense que le message n'a pas été assez non plus distribué, dit, là.
OK. Bien, on est là pour ça. Donc, le REEI, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est?
Bien, l'appellation, c'est Régime enregistré d'épargne invalidité. C'est un régime, c'est ça, fédéral, qui a été mis sur pied pour favoriser l'épargne à long terme des personnes qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Mm-hmm.
Donc, c'est tout handicap confondu. Dès qu'on a accès au crédit d'impôt, on est admissible au régime.
Okay.
Puis, comme je disais, il faut le voir comme un régime qui est sur du long terme parce que c'est de l'accumulation qui se fait sur long. Donc, dépendamment de l'âge à laquelle on commence à cotiser à notre REI, peut-être que l'utilisation ne sera pas la même si je commence à 1 an de l'enfant handicapé versus à un adulte de 30 ans qui va commencer. Donc, c'est de voir, chaque situation est unique dans le fond, mais faut viser plus du long terme que du court terme.
Bien, souvent, l'épargne, c'est ça. C'est peut-être... il faut penser un peu à long terme. Puis c'est important parce que, qu'on le veuille ou non, les services publics ont tendance à diminuer un peu pour les personnes handicapées. Puis on souhaite peut-être avoir une retraite comme les autres.
Oui, puis il faut pas se le cacher aussi. Malheureusement, le revenu moyen d'une personne handicapée, même si elle est sur le marché du travail, est malheureusement plus bas.
Mais justement, et les gens ne le savent pas, mais il existe une subvention en plus.
Exactement. Donc, il faut le voir comme pour un travailleur, par exemple, mais même pour une personne sur la solidarité sociale, là, il n'y a pas de... contrairement à ce qu'on pense aussi, ça n'est un autre facteur qui a fait peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup d'ouverts, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que s'ils sont sur la solidarité sociale ou l'aide sociale, ils ne peuvent pas y avoir accès, mais c'est faux.
Okay.
Ils peuvent y avoir accès. Puis les sommes accumulées ne sont pas comptées dans le revenu, donc ça n'entraîne pas de coupure de l'aide sociale. Donc ça, c'est important de le dire. Puis, dans le fond, le gouvernement finance votre retraite, entre guillemets. Donc chaque dollar que vous mettez, le gouvernement va en mettre jusqu'à 3 fois ce que vous allez mettre. Ça va dépendre de différents paramètres.
Mm-hmm.
Puis, dans le fond, c'est ça. Ça vient un peu pallier au fait que la personne handicapée a un revenu peut-être plus bas. Bien, à ce moment-là, on va peut-être avoir accès à une retraite quand même intéressante parce que le gouvernement va venir combler un déficit. Là.
Et donc, il faut faire ça tôt. C'est ce que vous recommandez.
Ça, c'est comme l'épargne en général. Plus on commence tôt, mieux que c'est parce qu'il y a l'effet d'intérêt composé qui vient entrer en jeu. Donc, dès qu'on commence à faire des montants tôt puis qu'on cotise longtemps, mais ces montants-là vont faire de l'intérêt sur intérêt. Donc, c'est le même principe pour un REER. Plus on commence tôt à planifier notre retraite, plus on va avoir des sommes importantes plus tard.
OK. Puis donc, par contre, brièvement, là, on ne peut pas liquider le REER aussi facilement avec les subventions. On les perd, les subventions sont liquides, le REEI.
Il y a des règles d'application, effectivement, pour les retraits.
Mm-hmm.
Effectivement, la dernière subvention versée au compte doit être là 10 ans avant de retirer sans pénalité.
Okay.
Et ça, c'est une grande règle générale.
Des fois,
on peut la moduler. Il y a aussi des pénalités qui sont réduites, dépendamment des sommes qui veulent être retirées.
Mm-hmm.
Il y a aussi des... Il y a eu des modifications.
Mais on ne pourra pas entrer dans les détails de la modification. L'important...
En fait, je ne veux pas que les gens restent avec le 10 ans dans la tête parce qu'avec quelqu'un qui peut bien vous conseiller, vous pouvez le moduler.
Exactement. Et pour avoir de l'information, on va sur quel site Internet, Fanny?
Notre site à nous, Finhandicap, FINANDICAP, beaucoup d'informations. Sinon, sur le site d'Emploi et Développement social du Canada, qui sont les responsables de gérer le dossier.
Merci beaucoup, Fanny Allary de Finhandicap. Merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
On va tenter la chose mensuellement, rencontrer un chercheur ou une chercheuse ou quelqu'un qui a travaillé à la recherche et qui s'est penché sur un sujet qui nous touche, nous, personnes en situation de handicap. Donc, accueillez maintenant Marie-Hélène Raymond, doctorante en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal et auteure d'une thèse sur l'ergothérapie à domicile. Bonjour, Marie-Hélène.
Bonjour.
Ah, je dois vous dire que je suis un peu essoufflé. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Vous êtes aussi ergothérapeute.
Oui,
je suis
ergothérapeute en soutien à domicile, effectivement.
Bon, ben justement, c'est quoi l'ergothérapie à domicile?
Bon, en fait, on est des professionnels de la réadaptation. Puis, quand on travaille dans les programmes de soutien à domicile, donc ce qui se trouve dans les CLSC, maintenant dans les CIS ou les CIUS, donc notre rôle à ces endroits-là, c'est d'enseigner des stratégies ou d'adapter le domicile pour les personnes en perte d'autonomie pour mm-hmm. qu'ils puissent réaliser leurs activités quotidiennes puis rester à domicile le plus longtemps possible.
Donc, vous travaillez concrètement à ce que les gens demeurent autonomes?
Tout à fait.
Et qu'est-ce que vous avez découvert dans votre projet de recherche?
Donc, en fait, on a fait un projet de recherche parce que un des problèmes dans ces programmes-là, c'est qu'il y a des grandes listes d'attente. Donc, c'est très difficile d'accéder à ces services-là qui sont très en demande. Et puis, ça fonctionne par priorisation. Donc, c'est pas premier arrivé, premier servi. Donc, mm-hmm. Et nous, on se demandait si les critères de priorisation qui sont utilisés par les établissements, si ça correspondait aux priorités des personnes qui utilisent ces services-là, donc des personnes âgées ou des personnes handicapées qui vivent à la maison. Donc, on a fait un sondage pour comparer les opinions d'ergothérapeutes à domicile, de personnes âgées et de personnes handicapées sur les critères de priorisation dans les listes d'attente. Et donc, oui.
C'est important peut-être de préciser priorisation. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite avoir ce service-là. Et selon des critères reliés à l'urgence au niveau de la santé jusqu'à demander une aide technique, etc. Donc, pour décider ce qui est le plus important, le système priorise. C'est
oui,
ça, dans le fond.
Les choses qui sont plus médicales ou axées sur la sécurité de la personne vont être priorisées. Donc ça, ces gens-là peuvent être vus par l'ergothérapeute d'ici quelques jours ou mm-hmm. une semaine. Alors que si c'est quelque chose comme, par exemple, une personne qui a de la difficulté à se laver à la douche ou à sortir de chez soi, c'est important, mais comme ce n'est pas considéré urgent ou ça n'affecte pas sa sécurité, bien, à ce moment-là, elle peut attendre plusieurs mois, voire dans certains cas, même jusqu'à plus qu'un an, parce qu'il y a toujours des demandes plus prioritaires qui arrivent avant.
Mm-hmm.
Donc, nous, ce qu'on voulait voir dans notre projet de recherche, c'était est-ce que les priorités que nous, on utilise pour prioriser dans les listes d'attente, ça correspond aux priorités des gens qui pourraient utiliser les services.
Et donc, qu'est-ce qu'elles pensent, ces personnes? Rappelons que vous avez posé la question des ergothérapeutes, des personnes âgées, des personnes qui ont une déficience
oui.
motrice.
C'était un sondage écrit là, avec plus de 700 personnes. Donc, en comparant leurs réponses, c'était des scénarios fictifs où ils devaient choisir toujours à chaque question laquelle des deux personnes devrait être priorisée selon vous. Puis ça nous a permis d'aller un peu calculer l'importance des différents problèmes pour chacun des trois groupes. Et donc, on n'était pas surpris de constater qu'ils n'ont pas les mêmes priorités.
Et qu'est-ce qu'elles pensent, ces personnes-là?
En fait,
c'est quoi
oui,
les différences?
C'est ça, les ergothérapeutes ont priorisé systématiquement les gens qui avaient fait des chutes. Mm-hmm. Et alors que les personnes âgées et les personnes handicapées ont priorisé les gens qui n'arrivaient pas à sortir de chez eux, souvent à cause des escaliers. Donc, c'est intéressant de voir la différence là, des perspectives sur qu'est-ce qui est considéré ou qui devrait être considéré plus important, pas plus important, mais plus urgent.
Mais sans rentrer dans les dizaines de pages de votre recherche, qu'est-ce qui explique que les ergothérapeutes sont plus sensibles aux chutes par rapport à, disons, les personnes en situation de handicap qui attendent plus d'autonomie?
C'est ça. En fait, on leur a demandé à quelques personnes, c'était très intéressant. Donc, les ergothérapeutes nous ont expliqué qu'ils priorisaient les chutes parce qu'ils étaient en quelque sorte pratiquement, il n'y avait pas tellement le choix, étant donné que les ressources sont tellement limitées qu'ils doivent toujours aller à ce qui compromet la sécurité de la personne avant tout. Puis, ils trouvaient ça déchirant quand même parce qu'ils se rendaient compte que les autres problèmes qui étaient nommés dans les scénarios, c'était important aussi, comme par exemple ne pas pouvoir sortir de chez soi. Ils reconnaissaient que c'était très, très grave pour la personne, mais comme ce n'était pas urgent sur le plan de la santé physique, ben, ils arrivaient rarement à traiter ces demandes-là. Puis ça leur faisait quand même, là, ça causait d'importantes tensions pour eux. Donc, ils se sentaient obligés, mais ils trouvaient ça vraiment dommage.
Donc, les ergothérapeutes sont pris avec les restrictions budgétaires, au fond, et doivent nourrir certains besoins plus que d'autres parce qu'ils manquent d'argent?
Bien, c'est un peu ça, puis c'est qu'ils sont pris un peu toujours à éteindre des feux, puis il y a toujours des feux, donc ils ont rarement le temps d'aller faire plus de la prévention ou des choses comme ça.
Qu'est-ce que vous recommanderiez, vous, à la lumière de cette étude-là? Là, vous avez quand même passé 2 ans, 3 ans? Plus que ça?
Oui. Oui, c'est sûr que c'est plusieurs années, là, un doctorat, mais depuis cette étude-là, on a commencé le sondage en 2014.
Okay.
C'est important qu'on aille justement solliciter la perspective des personnes qui pourraient utiliser les services, donc des personnes âgées, des personnes handicapées.
Pour leur parler.
Pour leur parler, les écouter, parce que ce sont vraiment eux les experts sur c'est quoi vivre au quotidien avec une perte d'autonomie ou une incapacité. Donc, justement, nous, les personnes âgées dans notre sondage, ils m'ont expliqué qu'eux priorisaient sortir de chez soi, c'était pour maintenir leur autonomie. Ils disaient, sinon, on va perdre des capacités, puis c'est important de garder notre autonomie, rester actif. Alors que les personnes handicapées, eux aussi, c'était sortir de chez soi, mais pour d'autres raisons. Pour eux, c'était pour l'inclusion. C'était pour donnez-nous une place dans la société, donnez-nous une place dans les listes d'attente, même si notre sécurité n'est pas toujours à risque de façon imminente, mais c'est important pour nous de pouvoir contribuer à la société, sortir, travailler, faire des loisirs, avoir une place. C'est vraiment plus comme pour eux une question de participation sociale. Donc, c'est vraiment important de consulter davantage les gens lorsqu'on prend des décisions dans un établissement de santé là, au niveau de l'organisation de services, parce qu'on peut mettre nos expertises ensemble. Sur qu'est-ce qui devrait être considéré justement prioritaire et pas prendre les choses pour acquis.
C'est très heureux d'entendre une chercheuse ergothérapeute qui dit « Travaillons davantage ensemble ».
Oui.
Ben écoutez, on aimerait beaucoup vous entendre plus longuement sur cette recherche, mais si on va voir plus d'informations sur vos trouvailles, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Est-ce qu'il y a un site ou éventuellement est-ce que les gens pourront en entendre plus?
Bien, pour l'instant, il n'y a pas de site web dédié à ça, mais on peut toujours m'écrire par courriel et j'ai un résumé que j'ai fait par écrit ou que je pourrais envoyer aux gens.
Ah,
mon
c'est
adresse
excellent.
Courriel, oui, c'est Marie. Oui.
Ouais, allez-y.
Marie.Hélène, H-E-L-E-N-E, .Raymond, commercialumontréal.ca.
Et communiquez avec nous si vous souhaitez avoir cette adresse. Ça nous fera plaisir de vous la transmettre. Merci, Marie-Hélène.
Parfait.
Raymond.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonjour.
Le cœur vide et la tête pleine. Comme un escargot qui traîne sa carapace lourde. Un escargot, la, veut se protéger tellement qu'il trimballe sa peur comme un bagage. Elle t'a mise en quarantaine, cette maladie du cœur qui est celle de la peur. De caresses et l'envie d'être ailleurs qu'ici. Il y a tant à voir. escargots qui traînent sa carapace lourde. Un escargot là, 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 veut se protéger tellement qu'il trimballe sa peur comme un bœuf. Ces hommes bons qui te font la cour ont toutes les raisons de tomber chaque jour. Mais toutes leurs avances indolentes, futiles, glissent sur ta peau comme passe une idylle.
L'escargot lent, parce qu'on a tous notre rythme, c'est une nouvelle chanson proposée par Sarah Toussaint L'Éveillé. J'espère que vous avez apprécié. Donc, vous le savez peut-être, les personnes qui ont une déficience visuelle, et même s'ils ont un niveau de scolarité comparable à celui de la population générale, sont proportionnellement beaucoup moins nombreux, nombreuses à occuper un emploi. Donc, c'est pour ça que l'INCA, un organisme caritatif incontournable pour l'aide des personnes aveugles, vient nous parler de sa campagne nationale sur l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision. Alors, il y a beaucoup de monde en studio. Je saluerai d'abord Sarah Rouleau, qui est consultante en communication et philanthropie à l'INCA.
Bonjour.
Bonjour, Sarah Rouleau. James Bergeron, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez témoigné dans cette campagne-là. Vous êtes ingénieur à la retraite. Vous avez travaillé pendant 16 ans chez Air Canada.
C'est ça.
Et devant moi, ben enfin, je vous le dis, là, vous le savez peut-être pas, mais il y a Marilyn Gélina. Vous avez peut-être croisé son histoire. Madame Gélina est infirmière et elle a perdu son emploi après un diagnostic de perte de vision. Bonjour, Marilyn.
Bonjour.
Ben merci de participer à cette campagne à vous tous. On la trouve belle, hein, si on l'a croisée. Il y a toutes sortes de messages. En fait, je commencerai d'abord avec vous, Madame Sarah Rouleau de l'INCA. Pourquoi l'INCA a choisi de lancer cette campagne à ce moment-ci?
Mais en fait, pourquoi en ce moment? Parce que c'est le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Donc, on a profité de l'occasion pour lancer notre campagne au mois d'octobre. Mm-hmm. Pourquoi une campagne sur l'employabilité? Pourquoi on trouvait ça important? Bien, comme vous l'avez dit, il y a un fort taux de non-emploi chez les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, c'est seulement 38 % des personnes qui vivent avec une perte de vision et qui sont aptes à travailler, qui travaillent, donc c'est très peu. Et pourtant, de nos jours, avec les technologies, la réadaptation
le
et tout...
Le télétravail?
Oui, il y a vraiment... travailler avec une personne qui a une déficience visuelle, c'est comme travailler avec n'importe qui. Donc, il n'y a pas de raison que ce taux-là soit aussi faible. Et malheureusement, bien, il y a près de 50 % des personnes qui vivent avec une perte de vision qui vivent avec un faible revenu, donc avec 20 000 $ et moins par année. Donc, c'est important pour
c'est
nous
important,
de parler de l'employabilité des personnes qui vivent avec une perte de vision.
Oui, puis j'ajouterais, vous avez aussi demandé une enquête chez Ipsos et on apprend qu'à compétence égale, 70 % des Canadiens embaucheraient une personne voyante plutôt qu'une personne aveugle.
Oui, mais c'est ça. En fait, le principal obstacle au non-emploi des personnes qui vivent avec une perte de vision, ce sont les préjugés puis les mythes qui continuent d'exister, malheureusement. Et effectivement, cette statistique-là est très surprenante, mais elle est due en grande partie à la méconnaissance des employeurs ou même des collègues de travail.
Donc, vous êtes là pour mieux nous faire comprendre cette réalité,
oui,
démystifier, faire tomber les mythes.
Exact.
Bon, écoutez, j'ai au téléphone un employeur qui a compris qu'une personne aveugle, eh bien, ça faisait toute la différence. Et je veux la présenter parce que je ne l'ai pas encore fait, si vous permettez. Il s'agit de Natalia Di Battista, qui est l'ancienne employée de James, qui est avec nous en studio et qui est chef de service ingénierie cabine chez Air Canada. Bonjour, Madame Di Battista.
Bonjour.
Battista, pardon, je suis désolé.
Pas de problème.
Merci de votre compréhension. Écoutez, j'aimerais ça qu'on parle tout de suite de votre expérience avec James, puisque, bon, on a tendance à donner la parole aux gens qui sont moins présents parce qu'on ne veut pas vous perdre, on veut que vous soyez avec nous et c'est si heureux qu'il y ait un employeur comme vous qui soit compréhensif. Donc, vous avez travaillé avec James pendant combien de temps?
Je dirais environ 6 ans.
Mm-hmm.
Mais je l'ai côtoyé beaucoup dans ses autres emplois aussi.
OK.
James m'a ouvert les yeux à moi, je pourrais dire. Je dis toujours que les gens qui sont non-voyants, ils n'en ont pas de limites. C'est nous qui leur imposons des limites, malheureusement.
Mais on entend, donc c'est un employeur qui dit ça, là. Comment vous réagissez aux 70 % de personnes qui préféraient ne pas embaucher des personnes aveugles?
Mais je pense qu'il y a de l'incompréhension. Mm-hmm. Ces gens-là qui travaillent savent qu'est-ce qu'ils ont besoin pour travailler. Et souvent, c'est un téléphone ou un appareil portatif avec voix, un laptop.
Oui. Ou avec une synthèse vocale.
Exactement. Et c'est tout. Il n'y a aucune grosse adaptation. C'est de les mettre à l'aise. Ils sont capables de dire ce qu'ils ont besoin pour travailler. C'est des gens comme vous et moi tous les jours.
Oui. Bien, écoutez, je vais vous prendre au mot. Il faut entendre les personnes d'abord et avant tout, leur parler. Et donc, je me retourne vers James Bergeron. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre ancienne employeuse qui était assez compréhensive?
Oui, c'est sûr. L'idée, c'est de partager toutes les informations avec eux autres, d'être capable de communiquer les besoins. Je ne suis pas une personne spéciale, mais j'ai une personne avec les besoins spéciaux, c'est ça.
OK.
Et de partager ça, s'il y a des barrières, s'il y a des choses qui arrivent, parce que la technologie change tout le temps.
Mm-hmm.
Et puis, il faut avoir l'adaptation qui change avec la technologie. Je travaillais avec la compagnie pour comprendre ça, attendre ça, puis aussi avec les autres genres d'entreprises comme OPHQ ou peut-être comme... l'INCA ou des
Mais pour les gens qui nous écoutent, ça fait beaucoup. Je vais juste préciser, le PHQ, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec, qui est l'organisme qui surveille les droits des personnes handicapées dans l'appareil d'État. Et INCA, c'est l'initiateur de cette campagne-là.
Oui,
donc,
exactement.
Sachez-le. James Bergeron, peut-être pour que les gens comprennent bien comment ça s'est passé, votre relation de travail, pouvez-vous nous décrire votre travail lorsque vous étiez chez Air Canada avec, avec Natalia qui est avec nous?
OK. Pour moi, je travaille dans le domaine de gérant de projet. Puis on faisait beaucoup des projets différents pour les avions.
Mm-hmm.
À l'intérieur, surtout dans la cabine, ce que vous voyez comme client, comme acheteur de billets, les tapis, les sièges, les écrans, tous les genres, les toilettes, tout ça, pour être... le plus haut que possible pour nos clients.
Okay.
Alors, il y a toujours des projets qui changent tout ça. Ça s'arrête jamais.
Ah, le changement, c'est toujours c'est là.
Il y a toujours des travaux sur ça. Ça, c'est genre... Demande à Natalia, parce qu'on travaille ensemble.
Ben oui, Natalia, comment vous décririez ça?
Bien, nous, on s'occupe de la fiabilité de la cabine. Donc, tout ce qui est sous le plafond, au-dessus du plancher puis entre les murs, on est responsable que ça fonctionne bien, que ça paraisse bien et pour le confort du client. Puis, on a beaucoup de projets, des projets de réparation, des projets pour améliorer la cabine. Et James était vraiment le chef de service en charge de projets. Donc, pour faire le suivi avec nos fournisseurs, que les pièces arrivent à temps. suivre l'horaire des avions pour s'assurer qu'il y a bien un avion à par terre pour qu'on puisse faire une modification, s'assurer qu'il y a les bons mécaniciens à la bonne place. Donc,
c'est un pro de la logistique. C'est un pro de la logistique, mais justement, avec ces adaptations que vous proposiez dans le milieu du travail, vous arriviez, James, à contrôler tout ça, à contrôler les effectifs, à contrôler un peu les personnes.
Oui. À faire le suivi avec, les personnes qui font le job.
OK.
C'est moi qui acquiert les étapes, les démarches pour chaque projet, enregistrer ça, puis trouver la personne qui va faire le job et faire un suivi pour chaque, un line item pour faire ça à l'heure, à le temps, sur la date qui existe et... C'est ça le projet, jusqu'au commencement, jusqu'au fin, trouver les finances pour ça, tout ça.
Bon, bien, c'est quand même une responsabilité de haut niveau. Natalia, donc, et sécuriser les employeurs, les employeurs qui nous écoutent. Monsieur Bergeron faisait ça, tout ça sans qu'on se rende compte qu'il était en situation d'handicap, si je comprends bien.
Exactement. James était intégré comme n'importe quel autre employé, un membre choyé de l'équipe. Mmh. Il montrait beaucoup de choses aux gens de l'équipe aussi. Il n'y a eu aucune difficulté. Gérant de projet mieux que d'autres qui ont leurs yeux, souvent. Très bien intégré et moi je vous dirais il n'y a pas de différence entre vous et moi, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment nous qui imposons les limites à des gens non-voyants. Ils n'en ont pas de limites, ils vont tout apprendre, il s'agit d'être bien confortable dans leur environnement, d'avoir les bons outils, puis
tout se passe bien,
tout se passe bien,
tout décolle.
Tout décolle.
Écoutez, je reviendrai vers Sarah Rouleau, qui est à l'organisme INCA, qui lance cette campagne de sensibilisation. Évidemment, c'est une histoire heureuse là, qu'on entend.
Oui.
James, Natalia, supérieurs et oui. employés.
C'est notre but qu'il y ait d'autres employeurs comme Natalia oui. qui osent engager, embaucher une personne qui vit oui. avec une perte de vision puis qui constate qu'effectivement, c'est comme travailler avec n'importe qui. C'est ça qu'on vise, dans le fond, avec cette campagne-là. Oui. Parce que des fins heureuses comme ça, il pourrait en avoir plein s'il y a un minimum d'ouverture d'esprit pour pour employer quelqu'un. Là.
Donc, j'aime ça que vous le lanciez, ouverture d'esprit.
Oui.
Je vais me tourner vers Marilyn.
Oui.
Marilyn, qui était une si nécessaire infirmière. Qui travaillons toujours avec des personnes en situation d'handicap, qui voyons la santé, on sait à quel point les infirmières sont importantes. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots, parce qu'on l'a vu circuler là, dans votre campagne, mais est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé au travail pour vous?
Ben moi, pour faire une histoire courte, j'étais plutôt infirmière auxiliaire au niveau du CLSC Antique à Montréal.
Ouais.
Donc, j'étais en soins à domicile. Moi, j'avais besoin de ma voiture, évidemment, pour travailler. Et en ayant le diagnostic, j'ai perdu le permis de conduire un mois plus tard. Et donc, je ne pouvais plus faire le travail que je faisais auparavant. Par contre, j'ai pensé que j'allais pouvoir me faire relocaliser ailleurs.
Ben normalement.
Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Mm-hmm. Ma supérieure immédiate à moi voulait me faire une route à pied, que je puisse continuer de pratiquer, de faire partie de l'équipe.
Ouais.
Parce que, je pense être une bonne employée, parce que j'ai jamais eu de commentaires négatifs, peu importe où j'ai travaillé pendant les 9 ans où j'ai été infirmière auxiliaire. Donc, pour moi, c'est... Je suis convaincue aussi que ce n'était pas ça le problème, parce que j'ai toujours engagé pour mes compétences et mes qualités. Mais malheureusement, ce n'est pas elle qui décidait de la suite. C'était les ressources humaines.
C'est les ressources humaines du CIUS du Nord, c'est ce que je comprends bien, qui ont offert aucune alternative, qui vous ont pas proposé des choses?
Bien, moi, j'ai eu une solution qui a été apportée aussi en collaboration avec une dame de l'Institut Louis Braille et Nazareth.
Oui,
qui m'a suivi.
Qui est souvent une référence, d'ailleurs, pour l'adaptation en milieu de travail ou de manière générale, des conseils pour toute personne qui perd la vue. Là.
Effectivement, elles sont là pour nous aider et adapter justement notre milieu de travail.
Voilà.
Donc, elle s'est présentée avec moi à certaines rencontres. On en a eu 2 ou 3 à mon souvenir. Et puis, elle a dit que je pouvais continuer à pratiquer, seulement j'aurais besoin d'un local.
Oui.
Parce que c'est sûr que pour moi, les déplacements sont difficiles.
Ouais.
Donc, les hôpitaux, on oubliait ça.
Ouais.
Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle les soins courants au CLSC qui sont exactement la même chose que les soins à domicile, mais c'est les patients qui se déplacent. Donc, ceux qui sont capables de recevoir les soins et se déplacer viennent au CLSC.
Et donc, sur tout le territoire, parce que là, on cherchait à vous localiser seulement dans le nord, c'est ça?
Oui.
Mais est-ce qu'on aurait pu essayer de vous, vous amener à un autre CIUS sur l'île de Montréal? Est-ce que vous savez?
Non, mais quand on est employé d'un CIUS, on reste dans le CIUS au complet.
Okay. Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs places où elle aurait pu travailler. Ouais. Le CIUS, c'est grand.
C'est grand, mais c'est immense.
C'est grand. Oui,
parce qu'il faut le dire, avec les dernières réorganisations, les territoires se sont étendus. Alors, vous aviez, de manière inespérée, plus de CLSC, de points de service où vous pourriez travailler.
Oui.
Bon, je me retourne vers Inca. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation-là?
Bien, en fait... Comment je pourrais dire? C'est comme on l'a dit tantôt, les adaptations sont simples. Mm-hmm. Des fois, ça va être soit du matériel technologique, comme on a parlé de la synthèse vocale et tout. Puis souvent, c'est le centre de réadaptation qui, justement, va s'assurer d'aménager l'espace de travail ou dire ce qu'on pourrait faire pour continuer de travailler, comme ça l'a été le cas avec Marilyn. Et ensuite, on est chanceux au Québec parce que la Régie d'assurance maladie du Québec va payer la majorité de l'équipement.
Donc en somme, il n'y a pas de coût réel pour l'employeur.
Pas vraiment. En tout cas, c'est pas un gros investissement parce que, justement, au Québec, avec la RAMQ, on est vraiment, vraiment, vraiment choyés. Mmh. Et là, ça aurait été d'écouter les conseils du centre de réadaptation, de travailler en collaboration plutôt que de se fermer. Dans le cas de Marilyn, je pense qu'il y a vraiment eu une fermeture, puis elle devenait plus comme une béquille, puis c'était trop compliqué, tu sais.
Donc, c'est ça l'argument. Si je comprends bien, les employeurs pensent que ça va être trop compliqué.
Oui, puis pourtant, ils pensent que ça va être compliqué, que ça va être cher, alors que c'est même pas eux qui ont à faire les adaptations. Tu sais, il y a vraiment les centres de réadaptation qui y vont puis qui vont le faire. Puis souvent, comme je vous ai dit, c'est pas un gros investissement. Fait que c'est un, je crois, des gros obstacles que les employeurs voient. Ils se disent « Ah, mon Dieu, ça fait super compliqué. » Puis ça l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ça important de le dire puis de le rappeler.
Alors,
je pense qu'il devrait avoir des visites dans les grandes entreprises où il y a plusieurs employés, qu'il y a toujours de la demande d'emploi de ces grandes entreprises-là, d'aller les visiter puis de leur parler puis de leur dire « C'est pas compliqué. »
Ça aiderait, hein?
Je pense que oui. Mm-hmm. C'est les campagnes de sensibilisation, ça l'aide beaucoup, mais je pense que les gens n'écoutent pas. S'ils n'écoutent pas, il faut vraiment se rendre sur place, envoyer des pamphlets, qu'ils voient puis qu'ils tiennent quelque chose dans leurs mains qui est concret, qui dit ça ne coûtera pas cher, il n'y a pas de changement.
On va essayer d'aller les rencontrer le plus possible.
Voilà, c'est presque le mot de la fin. Pour plus d'informations sur votre campagne nationale sur l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision, on se rend au cnib.ca/fr. C'est bien
oui,
ça?
Oui, sinon INCA.ca / employabilité pour être vraiment là sur la campagne. Il y a des conseils pour les employés autant que les employeurs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sarah Rouleau, James Bergeron, Natalia Di Battista, Marilyn Gélina, merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Et donc, on remercie aussi, j'ai dit ça souvent, merci, Marjorie Théodore, Fanny Allary, Marie-Hélène Raymond et Marie Turcotte. Pour écouter l'émission ou pour les coordonnées des intervenants, intervenantes et les organismes présents à l'émission, rendez-vous sur le site du Canal M. Je tiens à souligner le travail de l'équipe, Anne-Laure Janson, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna aux communications. Ici Benoît Racette, on se retrouve la semaine prochaine. On va finir par faire ensemble un véritable accès libre.